Donc, Jean-Paul Tapie est né à Bordeaux, en France, en 1949. Journaliste, puis concepteur, rédacteur, publicitaire, il publie son premier roman, Dolce Roma, aux éditions Grasset, en 1974. Depuis, il a publié un total de 34 titres dans 7 maisons d'édition différentes. Grasset, La Table Ronde, Gallimard, Robert Laffont, Stanquet, Orphie et H.E.O. Pour les besoins de ma présentation, je me permettrai de schématiser cette imposante œuvre romanesque selon trois grands axes. D'abord, il y a les œuvres signées Jean-Paul Tapie, qui se divisent elles-mêmes en deux périodes principales, soit celle qui s'échelonne de 1974 à 2006 et celle de 2007 à aujourd'hui. La première, qui regroupe la production littéraire consacrée, est, selon l'auteur, d'une pudicité irréprochable et se compose principalement de récits autobiographiques et de témoignages qui abordent le thème de la souffrance homosexuelle, dit Tapie. À partir de 2007, il délaisse ce genre plus personnel et sérieux pour la littérature pornographique, communément considéré, nous rappelle Dominique Magnot, comme un genre de la paralittérature. Enfin, nous retrouvons la troisième partie de l'œuvre de Tapie, laquelle se construit en parallèle du reste de la production, parce que signée du pseudonyme Zain Gadol, qui appartient aussi au genre de la littérature pornographique et qui s'étend de 2004 à aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, revenons cependant à l'année 2007, qui s'avère une année charnière dans l'œuvre de Jean-Paul Tapie. C'est en fait l'année où il publie son premier roman pornographique, soit le premier tome de sa série Dolco, son plus grand succès en librairie à ce jour avec plus de 10 000 exemplaires vendus, ce qui en fait un best-seller de la littérature homosexuelle. Comme l'indique le chroniqueur Thibault Masson dans son article paru sur le Huffington Post, je cite, « Le succès de la saga Dolco est frappant parce qu'il s'explique par des facteurs littéraires, érotiques et personnels. » Fin de la citation. Un autre fait intéressant dont nous informe Masson dans cet article, c'est que, je cite encore, « l'apparition de cette saga érotique et historique a d'ailleurs poussé l'auteur à ouvrir son blog la même année, jeanpaultapie.com, afin de partager avec ses lecteurs ses pensées littéraires et érotiques. » Fin de la citation. Deux nouveaux univers fictifs, donc, qui marquent une renaissance littéraire chez Jean-Paul Tapie, auquel il convient de s'intéresser. Mon objectif dans le cadre de cette présentation sera donc d'étudier plus en profondeur ce moment charnière de la production romanesque de Tapie, lequel annonce toute la production à venir ainsi que la création de ce que j'appelle son ethos d'écrivain pornstar. Pour ce faire, je chercherai à comprendre comment le discours paratextuel que l'auteur énonce via son blog peut être convoqué comme clé de lecture de ses fictions pornographiques pour créer des effets de cohérence et de bouclage entre l'homme et l'œuvre. À ce propos, il affirme justement sur son blog que, je le cite, « Chez moi, être écrivain, ce n'est pas une vocation, c'est une évocation. C'est parce que je n'ai pas pu être pornostar. » Fin de la citation. Ainsi, je m'intéresserai à la présentation de soi que Jean-Paul Tapie crée à travers son blog, laquelle est très fortement influencée par l'univers du porno gay. Et je mettrai cette construction d'auteur en lien avec le paratexte des romans publiés à partir de 2007, tous deux semblant participer à une même stratégie ludique qui vise à faire le lien entre la vie de l'auteur et sa fiction, venant ainsi confirmer son statut de spécialiste du genre pornographique et lui conférer l'autorité nécessaire pour traiter de ce sujet spécifique. D'abord, il faut savoir que Tapie publie en moyenne un article par jour sur son blog, et ce depuis le 13 décembre 2007, ce qui équivaut à plus ou moins 2600 articles à ce jour. En ce sens, son blog s'apparente à un carnet d'écrivain. L'auteur y donne son opinion sur tout, les productions culturelles françaises et américaines qu'il consomme, la politique, le sport, mais aussi, et c'est ce sur quoi je me suis principalement intéressé dans le cadre de mon étude, ses romans et son travail d'écrivain. Je me suis donc concentré sur un corpus composé de 49 articles publiés entre 2007 et 2014, lesquels ont été sélectionnés parce que Jean-Paul Tapie formule chaque fois un commentaire sur sa production romanesque, ce qui en fait une composante non négligeable du paratexte des œuvres de Tapie. Chaque article assez court est accompagné d'une photo de jeunes hommes à moitié nus, voire complètement nus, qui ont tous en commun leur physique viril. Cet aspect visuel racoleur et redondant permet d'emblée d'établir un contrat de lecture clair qui surconnote le genre pornographique. À ce propos, dans son premier article publié, Tapie affirme ceci. J'aime bien les blogs qui proposent des photos de très beaux garçons. À les visiter, on aurait presque l'impression que le monde est exclusivement peuplé de jeunes garçons de 25 ans, d'une beauté stupéfiante avec les corps les plus formidables que l'on ait jamais vus. En plus, souvent, ces garçons nous laissent deviner, quand ils ne nous le montrent pas carrément, que la nature, décidément généreuse à leur égard, les a dotés d'un membre nettement supérieur à la moyenne. Je déconseille d'aller faire un tour devant sa glace après avoir visité de tels blogs. Je conseille au contraire d'aller s'allonger sur son lit et d'y rêver intensément à ces superbes garçons. Ou alors de s'allonger sur son lit et de lire mon dernier roman. Il s'intitule Dolco, l'Odyssée de l'esclave. D'emblée, Tapie établit donc une parenté entre son blog et ce qu'on devine être des sites pornographiques, puisque tous deux proposent des photos de très beaux garçons. Plus encore, il ajoute à l'équation sa production romanesque en incitant les gens qui consultent son blog ou ses autres sites à caractère pornographique à lire ses romans, ceux-ci les plongeant dans le même type d'univers. Univers qui met de l'avant d'une part l'omniprésence des modes d'expression pornographique de l'homosexualité et d'autre part un culte de la beauté virile. Ce sont aussi ces deux éléments qui caractérisent le tournant qui a cours à partir de 2007 dans l'écriture de Tapie. À ce propos, celui-ci affirme dans une auto-entrevue qu'il réalise pour le blog collaboratif L'Étoile Rose. « Je ne suis plus très jeune, c'est vrai. Je suis né en 1949 et je suis mort en 2005 ou 2006 par là. Ce qui explique d'une part l'état physique un peu délabré dans lequel je me trouve et d'autre part ce goût sans doute immodéré pour les beaux garçons athlétiques qui abondent au fil de mes récits. » Sa mort fantasmée de 2005 ou 2006, que nous pourrions en fait qualifier de renaissance, réfère directement à cette réorientation dans l'écriture de l'auteur. Jean-Paul Tapie, en s'offrant spectacle sur son blog, participe à prolonger et à célébrer l'idéologie partagée par la culture pornographique homosexuelle. En effet, Tapie en fait son propre cheval de bataille en adoptant lui-même vis-à-vis ses lecteurs un éthos d'écrivain pornstar qui cherche à légitimer son travail. Dans la présentation de soi, Éthos et identité verbale, Ruth Amossi définit l'éthos comme, je cite, l'image que l'orateur construit de lui-même dans son discours afin de se rendre crédible. Fruit d'un savoir-faire, il renvoie nécessairement un sujet intentionnel qui programme sa présentation de soi en fonction de ses objectifs propres. Fin de la citation. À ce titre, serait-il possible de croire que cette reconstruction de soi est d'autant plus visible chez les sujets homosexuels? En effet, Florence Tamagne, dans Histoire de la virilité, observe la réalité suivante. Je cite, « Que ce soit par prudence, pudeur, opportunisme, goût de la dissimulation ou amour du jeu, chaque homosexuel négocie jusqu'à un certain point sa présentation de soi en fonction des lieux, milieux et situations. » Fin de la citation. Cela nous permet de croire que Tapie se sert de l'espace que lui offre son blog pour créer une image fantasmée de lui-même qui soit susceptible d'appuyer les idéologies véhiculées dans ses romans et lui donner une crédibilité. Le blog devient un espace de jeu pour l'auteur. C'est pourquoi il mélange constamment l'univers de la littérature à celui de la pornographie dans ses commentaires sur son travail d'écrivain. À ce propos, la biographie arrangée qu'on retrouve sur son blog est très éloquente et participe aussi à cette construction ludique. Notons que l'objectif ne consiste pas ici, comme le suggère le titre « Biographie arrangée », à mesurer le degré de véracité du récit biographique. Le lecteur ne pourra s'empêcher au passage de soupçonner ici et là des inventions possibles, tant la vie de l'auteur présente des accointances troublantes avec le contenu de ses romans pornographiques. La biographie est plutôt utilisée comme sceau conférant de l'autorité aux représentations ayant cours dans ses fictions. On y mentionne, entre autres, « Il y a eu quelques centaines, voire quelques milliers de mecs. Je dirais entre 2000 et 2500. Je sais, ce n'est pas énorme pour un mec de mon âge, mais je suis plutôt difficile et exigeant sans pour autant être une bombe moi-même. Si j'avais été vraiment beau, je crois que j'aurais pu dépasser les 5000. » Il dit aussi, le 2 juin 2012, « J'ai eu des centaines d'amants. J'ai baisé avec des mecs des 5 continents dans tous les lieux et toutes les positions inimaginables. » Par ces deux entrées, il met clairement de l'avant l'importance des performances sexuelles chez les personnages qu'il joue, comme si cette information était pertinente à mettre en lien avec son métier d'écrivain. L'acte d'écriture n'étant pour Tapie jamais loin de l'acte sexuel. Il affirme aussi dans sa biographie qu'en dehors de la littérature et du plaisir, il a consacré une grande partie de sa vie au sport, ski nautique, parachutisme, course à pied, course de montagne, escalade, randonnée, musculation, laissant au lecteur le soin d'imaginer le type de corps viril que lui procurent toutes ses activités physiques. En fait, il leur facilite la tâche en accompagnant son texte d'une photographie. Tapie y apparaît torse nu, le jean déboutonné, dans une position qui se veut invitante, ce qui entre en opposition claire avec les photographies d'écrivains que nous retrouvons habituellement en quatrième de couverture de ses romans, lesquels sont complètement aseptisés. Cela, l'auteur l'explique sur son blog le 28 janvier 2008. « L'ami qui m'a aidé à m'installer sur ce blog me met au défi d'y publier ma photo. Il prétend qu'elle me vaudra quelques mails intéressés de mecs excités par la lecture de Dolko. » Là encore, nous remarquons que la lecture de ses romans est directement liée à son blog et à son goût du sexe et de la virilité, comme si l'une et l'autre fiction étaient en constante interaction et s'alimentaient l'une l'autre, voire que la marchandisation de l'un menait à la marchandisation de l'autre. Il affirme même le 20 janvier 2008 que « Pornostar est le plus beau métier du monde ». Aussi voue-t-il un culte particulier à divers acteurs de la scène pornographique gay, tout particulièrement à François Saga et Damien Cross. Il affirme même le 25 janvier 2008 que la seule élite qu'ils reconnaissent chez les homosexuels, ce sont les acteurs porno, plus quelques acteurs et quelques sportifs. Entre Foucault et François Saga, il choisit le deuxième et sans l'ombre d'une hésitation. Tout le discours paratextuel de Tapie traduirait donc une volonté de se rapprocher de cette élite homosexuelle en se faisant lui-même passer, grâce à diverses stratégies, pour un acteur porno fantasmé. Concernant Damien Cross, il dit le 5 avril 2008 « J'en vis ce garçon. Il a tout ce qu'un mec peut décemment désirer, ça se voit, non? Il a 25 ans, il baise avec les plus beaux mecs de la planète gay, et en plus, on le paie pour le faire. Il passe sa vie à s'amuser, et visiblement, il est fait pour ça. » En lien avec cela, le cas de Dolko est fort intéressant. En effet, l'homme qui personnifie le héros de la série en figurant sur les couvertures des 4 tomes est en fait ce même Damien Cross. Bien que relevant d'une décision de l'éditeur, celle-ci ne saurait que plaire à Tapie. En effet, j'ai déjà évoqué toute l'admiration qu'il voue à cette star du porno gay. À ce propos, il explique « Quand mon éditeur m'a demandé comment j'imaginais Dolko, je lui ai donné comme exemple François Saga, un acteur porno que j'apprécie beaucoup, et pas seulement pour sa plastique et ses performances sexuelles. » Damien Cross appartenant à la même catégorie physique que François Saga, j'ai donc totalement adhéré au choix de mon éditeur. En fait, il semble unanime que la présence d'une une star du porno sur la couverture a grandement contribué au succès de la série romanesque. Thibaut Masson le confirme dans son article. Je cite « L'une des clés du succès de ce livre est la présence en couverture de Damien Cross, un des acteurs de films pour adultes les plus prisés du moment. » Fin de la citation. Jean-Paul Tapie, même s'il a lui-même écrit ses romans, exprime, oui, la même opinion. Les très belles photos de l'acteur porno Damien Cross, prises par Aaron Corbett, qui ornent les couvertures des tomes de la saga, ont aussi contribué au succès de Dolko. On s'adresse donc clairement à un public ciblé, lequel est homosexuel et familier avec l'univers du porno gay qui occupe une grande place dans la culture gay. Comme nous pouvons le voir, le choix des illustrations qui figurent en couverture des romans est très important pour l'auteur, ce qui explique aussi pourquoi il s'implique à ce point dans le processus décisionnel. Par exemple, concernant la couverture initiale du tome 3 de la série Dolko, Tapie commente le 18 juillet 2008 « Je ne me sentais pas à l'aise avec la couverture de Dolko 3. J'ai donc demandé à mon éditeur de faire quelque chose. Son idée a été simple et très efficace. Réduire la photo et augmenter le gros plan de Damien, afin que l'on ne voit plus ses jambes un peu maigres à mon goût. Là, je trouve que Dolko est de nouveau tel qu'on l'imagine, beau, viril, impitoyable et terriblement chaud. » Pour ce qui est de François Saga, icône de la pornographie gay célèbre pour son crâne tatoué, Jean-Paul Tapie a aussi pour lui un grand respect. Pour moi, le plus digne représentant en France de cette élite homosexuelle, c'est François Saga, pas Didier Lestrade. Belle gueule, super corps, bonne bite. Après tout, jusqu'à plus ample informé, l'homosexualité consiste à défoncer quelqu'un du même sexe, et il n'est nul besoin pour cela d'avoir fait des études et lu des livres, même les miens. Les universités de cette élite-là se situent dans les saunas et les backrooms. Les livres de cours sont les recueils de Tom of Finland ou de Ralph Koenig. Les vidéos sont fournies par les studios Colt et Bellamy. En effet, Tapie affirme aussi ceci le 23 septembre 2010 à propos de son destin d'être écrivain plutôt qu'acteur porno, comme si ce choix était hors de son contrôle. J'aime bien François Saga. J'ai l'envie d'être un acteur porno. J'aurais donné volontiers la moitié, voire les trois quarts de mes bouquins pour l'être moi aussi. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Dieu m'a dit « Jean-Paul, certes, tu es beau avec un corps inouï et une bite phénoménale, mais j'ai d'autres ambitions pour toi. Je veux que tu sois un auteur à insuccès, un écrivain de worst sellers. Et moi, quand Dieu m'a dit quelque chose, j'obéis. » En effet, comme je l'ai déjà évoqué, il en vient à la conclusion, le 5 avril 2008, que « Finalement, chez lui, être écrivain, ce n'est pas une vocation, c'est une évocation. C'est parce qu'il n'a pas pu être pornostar. » Cela l'incite à constamment lier son travail d'écrivain à celui de l'acteur porno. À défaut de l'incarner lui-même, il vit son rêve pornographique par procuration à travers les aventures sexuelles dans lesquelles il place les personnages de ses romans. En fait, il exprime constamment à quel point son écriture est intimement liée à son désir et à ses fantasmes. Il affirme le 8 mai 2010 « Il ne me vient rien. Je suis plus sec qu'un acteur porno à la 12e prise. C'est terrible et surtout consternant. » En outre, il semble que le milieu pornographique soit pour lui un moteur de création infaillible. « Ma plume sombre lentement dans un profond sommeil. Se trouvera-t-il quelque part un prince charmant pour la réveiller? J'en doute, mais si c'était le cas, j'aimerais bien que ce soit le garçon de la photo d'aujourd'hui, Léo Giamani, une star du porno gay, un très bel italo-américain très différent des pornostars habituels, terriblement fantasmatique. » Comme je l'ai déjà mentionné en introduction, lorsqu'il publie certains de ses romans pornographiques, Tapie utilise une autre identité, qui, malgré tout, se rapproche de la figure d'auteur qu'il a construite sur son blog depuis 2007. En effet, il signe ses romans sous le pseudonyme Zain Gadol, ce qui, dit-il, signifie « grosse queue » en hébreu. Sur le site internet des éditions H&O, il est possible de lire la biographie suivante à propos de l'auteur fantasmé. Zain Gadol est né en 1970 en Israël, où son père, Ephraim Gadol, est un scientifique réputé et sa mère, la directrice d'une importante galerie d'art. Il a représenté son pays aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 dans l'épreuve du 200 barreurs. Il a été élu l'année suivante plus bel athlète israélien par le magazine gay Goof Yafé. Il vit à Paris depuis une dizaine d'années et en 2002, il a officialisé sa relation avec son ami de toujours, le peintre Tahat Katan. Là encore, nous voyons clairement qu'il s'agit d'une supercherie, l'auteur ne s'en cache pas, et que Jean-Paul Tapie joue un rôle. Il crée une figure d'auteur fictive qui a pour parent un scientifique réputé, une directrice de galerie d'art, ce qui le place dans une classe sociale assez aisée. Par ailleurs, il s'octroie divers mérites, que ce soit sa participation aux Jeux olympiques de Barcelone en 92 ou sa nomination comme plus bel athlète israélien. Dans tous les cas, ce n'est que pure invention, voire fantasme. Pourtant, nous y retrouvons les mêmes motifs que pour l'image de Jean-Paul Tapie qui nous est offerte sur le blog de ce dernier. L'attrait pour le sport, l'esthétique corporelle virile, c'est-à-dire des éléments qui permettent d'établir des ponts entre la vie de l'auteur et ses romans. Cette production parallèle à l'œuvre principale de Tapie nous montre plusieurs choses. Ses romans pornographiques, publiés à partir de 2004 sous pseudonyme, en sont venus à imprégner les romans signés Jean-Paul Tapie dès 2007 en raison de leur popularité chez les lecteurs. Ainsi, partant de ces divers constats, à propos de la construction d'auteurs de Tapie, serait-il envisageable de dégager des conclusions quant à savoir ce qui conditionne ce discours paratextuel pornographique chez l'écrivain? Je l'ai déjà mentionné, en 2007, l'écriture de Jean-Paul Tapie change de vocation. Il délaisse alors une littérature consacrée pour se concentrer sur une littérature pornographique. C'est aussi cette année-là qu'il commence à rédiger son blog, par le biais duquel il se compose un éthos d'auteur axé sur la performance sexuelle et la virilité. Tous ces éléments en prenant forme au même moment semblent donc participer à un but commun. Jean-Paul Tapie apparaît conscient des stratégies qu'il met en place, comme c'est souvent le cas chez les écrivains, nous rappelle Ruth Amossi. Je cite, « La personne qui joue un rôle connaît les règles du jeu et sait à quel modèle elle doit se conformer pour garantir son propre succès. Il ne s'agit pas simplement d'habitus, mais de la mise en pratique d'une connaissance acquise et de la conscience professionnelle du rôle à incarner. » Fin de la citation. N'ayant pas connu ni reconnaissance ni succès avant 2007 et le trouvant enfin lors de la publication de son roman Dolko, qu'est-ce qui peut donc avoir poussé Tapie à tout miser sur ce nouveau genre littéraire? À ce titre, il affirme le 21 août 2010, ce qui, à mon sens, explique peut-être partiellement ce choix. En fait, je me rends compte que mes seuls romans qui pourront vieillir sereinement, ce sont mes romans porno signés Zane Gadol et mes sagas porno-érotiques Dolko et Amori, parce qu'au fond, le sexe de toutes les activités humaines est celle qui a le moins évolué en tant de siècles. Dès le début, on avait tout découvert, tout compris. Peut-être Jean-Paul Tapie a-t-il compris en 2007 tous les rouages du milieu littéraire qu'il juge élitiste et la place presque inexistante qui occupe la littérature homosexuelle, ce qu'il déplore. En fait, ce sentiment semble avoir germé dès la publication de son roman Le Fils de Jean chez Gallimard en 1999. Gallimard s'est révélé mon expérience éditoriale la plus navrante, même si elle est la plus glorieuse. J'ai compris à cette époque que ça ne marcherait jamais pour moi dans le monde de la littérature. J'en ai éprouvé un chagrin qui dure encore, mais dont je ne peux parler à personne, car dès que je l'exprime, je m'entends dire par mes interlocuteurs « Non, mais tu te rends compte, être édité chez Gallimard. Oui, bon, et alors? Être le dernier chez Gallimard est une expérience que je ne souhaite à personne. » Victime de censure et de stigmatisation dans ses premières années de publication, Tapie décide donc de jouer le jeu de la paralittérature à fond en 2007, faisant un pied de nez à cet élitisme littéraire qu'il déteste. Il reconduit alors à travers son discours les grands constats de Daniel Quignard sur le fonctionnement du modèle paralittéraire. Dominé par la répétition, celui-ci s'articule sur un mode de surconnotation du genre, qui instaure un contrat de lecture sans ambiguïté. Qui plus est, ce contrat se fonde sur l'abolition de ce que Quignard nomme l'illusion référentielle. En paralittérature, aussi bien dans le texte qu'en dehors du texte, des mécanismes sont mis en œuvre pour que l'acte de lecture se fasse sans entrave, jusqu'à devenir inconscient pour le lecteur. Celui-ci se voit alors littéralement plongé dans la fiction et peut s'adonner au plaisir ludique que lui procure cette activité d'évasion face au réel. N'y a-t-il pas lieu de penser alors que Jean-Paul Tapie utilise, si ce n'est réinvente son discours et ses données biographiques afin d'effacer la barrière entre réalité et œuvre, en surlignant constamment les points de contact entre les deux? De son vécu supposé serait tiré son autorité à parler comme un spécialiste du milieu pornographique. En convoquant ainsi un univers de référence pornographique appartenant à la culture première de la plupart des homosexuels, Tapie légitime son travail et se garantit un public. En effet, cet éclairage prend tout son sens lorsqu'on met son travail en lien avec un texte qu'il a publié dans le collectif Écrire Gay en 1999, soit la même année que la publication de son roman chez Gallimard. Tapie y affirme ceci. Que les homosexuels lisent peu, c'est consternant pour les tenants de la communauté et de la culture gay. Si l'on se place sur le plan des statistiques et si l'on estime, hypothèse plutôt basse semble-t-il, la population homosexuelle masculine en France à 2 millions, le nombre moyen de lecteurs d'un roman homosexuel ne dépasse pas le pourcentage d'un pour mille. Il observe que ce qui agace les homosexuels en littérature comme en d'autres domaines, c'est de voir leur réalité représentée, aussi bien politiquement que physiquement. Le thème le plus récurrent des romans homosexuels est celui de la découverte, du style « mon homosexualité, ma douleur ». Pourtant, ce thème si prolifique n'a plus depuis quelques années très bonne presse auprès des gays. Il trahit un apitoiement sur soi, une auto-oppression, une éducation de la honte que les jeunes homosexuels des années 90 refusent et rejettent. Le gay, contrairement à l'homo, se veut fier et on imagine mal que la fierté puisse être l'aboutissement de l'aveu d'une telle souffrance intime. En effet, ce qui cause problème chez lui, c'est que les écrivains nous renvoient une image de nous homosexuels que nous refusons, sans doute au détriment d'une image moins réaliste et plus fantasmée. Ainsi, l'éthos d'écrivain pornstar de l'auteur, avec toutes les stratégies qu'elle implique, participerait-il à combattre cette haine de soi que ressentiraient les homosexuels au dire de l'auteur? En interpellant ses lecteurs à travers leurs fantasmes, que ce soit à l'intérieur de ses romans comme dans son discours paratextuel, Tapie évite l'écueil de la représentation de la douleur homosexuelle en littérature. Délaissant une littérature plus réaliste à partir de 2007, Tapie met donc tout en œuvre pour faire naître sa figure d'écrivain pornstar, ce qui lui assure le succès commercial qui lui semblait jusqu'alors impossible. Merci.